Bonjour et bienvenue dans cette quatrième édition du Gang d'élite, les lectrices irrésistibles et totalement fatales. Complices dans le crime aujourd'hui, Chiffonnette.
Bonjour.
Et Stéphanie.
Bonjour.
Au sommaire de cette émission, un peu de fantastique avec L'heure de l'ange d'Anne Rice, de la jeunesse avec un roman de science-fiction et un roman d'atmosphère, nous allons dire, du cinéma avec adaptation de Fantastique Maître Renard, deux BD, un polar, Ce soir je vais tuer l'assassin de mon fils, et nous finirons avec deux livres de cuisine. Pour commencer, un roman fantastique, le dernier roman d'Anne Rice, L'heure de l'ange, qui vient de paraître aux éditions Michel Lafond, et qui, je suppose, comme au sein de titre l'indique, va nous parler d'un ange.
Ton pouvoir de déduction me remplit d'étonnement, passionne, vraiment.
Je sais lire en fait.
C'est fou. Ouais. Alors oui, effectivement, L'heure de l'ange, comme son titre l'indique, est une histoire d'ange. Et comment dire, c'est pas vraiment angélique tout ça, mais enfin bon. Alors, allons-y. Anne Rice, je l'avais adorée, avec Les Sales Vampires, Louis... toutes ces merveilleuses histoires dans la Nouvelle-Orléans, pleines de stupre, de lucre et de perversité.
Ça fait envie.
Quoi, t'as pas vu Anne
Rice ? Non, j'ai pas vu Anne Rice.
Ça, c'est définitivement une honte.
Mais j'ai vu le film.
Non, mais c'est nul.
C'est vrai.
Brasse, elle s'en fout, c'est nul.
Oui, mais il y a quand même Brasse.
Oui, mais c'est une bouse.
Certes. Mais il y a Brasse.
Oui, mais c'est une bouse quand même. Enfin bon, bref, on va arrêter là ce débat cinématographique de haute volée. Anne Rice, c'est vampire, c'était bon, c'était même très très bon. Le seul problème, c'est qu'il semblerait que Madame Rice ait décidé de changer son fusil d'épaule et de s'attaquer maintenant aux anges gardiens. Mais allons-y pour un petit résumé de l'intrigue, parce que quand même, ça reste un petit peu mystérieux. Alors, L'heure de l'ange raconte l'histoire de Toby. Toby est un tueur solitaire. 1m93, les cheveux blonds. Un tueur solitaire et... absolument émérite, puisque toutes les polices de la planète sont à ses trousses, Interpol, le FBI, j'en passe des meilleurs, et aucun ne parvient à mettre la main
sur lui. Ah, quel homme !
Quel homme, n'est-ce pas ? Il joue un instrument ancien, il adore contempler les plafonds peints de missions reconstituées dans lesquelles il se ressource.
C'est une occupation comme une autre.
Et il passe une grosse partie de son temps, quand même, disons-le, à errer de missions détruites en missions reconstituées et de missions en ruine en missions reconstituées
dans la pampa,
avant d'aller de nouveau se ressourcer dans sa mission reconstituée et absolument luxueuse. Entre évidemment deux contrats que lui donne son patron mystérieux. Car évidemment, le patron est mystérieux. Bon, Toby, mais Toby, le problème, c'est qu'il a beau être un tueur émérite, il a quand même des remords de conscience. Il est déchiré atrocement entre la foi de son enfance. Il voulait être prêtre, qui traîne de mission en mission.
Ah, d'accord, c'est vraiment un cliché total, donc. Hein.
Ouais, je crois qu'on peut le voir comme ça, en fait. Donc, il est. Déchiré affreusement et atrocement entre la foi de son enfance et son métier, et il n'en peut plus. Il est vraiment, ça commence à devenir insupportable cette vie, donc il est rempli de mélancolie et il erre encore plus. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il erre pendant 2-3 chapitres, je ne sais plus.
Oui, il est tellement long. Voilà,
c'était tellement long qu'au bout d'un moment, j'ai même perdu un petit peu de fil. J'avais même un petit peu envie de lui coller 3 paires de bœufs pour lui dire d'arrêter de pleurer sur son sort de mission en mission et de rentrer un petit peu dans l'action. Je sais pas, un petit meurtre, n'importe quoi.
C'est combien, en fait, hein,
mais... Ah oui, complètement. Mais moi, je serais plutôt level 26, tu vois, en fait. Mais là, c'est pas de bol, c'est pas level 26. Donc, c'est long, c'est répétitif. Il erre, il fait que ça. Il pleure beaucoup, il pleure tout le temps sur son sort,
et
sur
alors,
le sort du monde.
Et qu'est-ce qui se passe alors
finalement,
qu'il se passe quelque chose déjà.
Il finit par se passer quelque chose, et là on se dit, ça y est, enfin, il va, dans un moment d'intense désespoir, adresser une prière qui n'en est pas à Dieu, une prière qui n'en est pas une, puisqu'en fait il ne croit plus en Dieu, mais en fait il prie comme à Dieu. Bref,
ouais, c'est
compliqué,
oui.
Mais on n'est pas
cohérent.
Ils sont très, très tout. Hein. Et là, soudainement, alors qu'il vient d'accomplir... de remplir un contrat, un homme mystérieux apparaît. Il est grand, il a des cheveux noirs.
Ta-da.
Il semble lire dans ses pensées.
Non.
Si.
Il a des ailes.
Elles sont cachées. Mais c'est un ange gardien.
Ah. Ça fait...
parfait, fabuleux. Et donc là, Malkia va... Alors, ce qui est très drôle, c'est que Malkia parle et en même temps, Bobby a une petite voix dans sa tête qui lui dit « Non, l'écoute pas, c'est un méchant,
c'est
un méchant. »
Ah, c'est le diable.
C'est le diable.
Oh là là, c'est incroyable. Voilà, c'est tout nouveau, tout ça.
Mais complètement déchiré, mais il décide quand même de faire confiance à Malkia qui ne veut que le bien de son âme et qui, pour lui permettre de racheter ses fautes, va le projeter au Moyen-Âge.
Ah, avec un tardif.
Même pas, franchement, il n'y a même pas
de... Ah non, il y a tous les pouvoirs, ah, c'est vrai, mais enfin,
on peut lui reconnaître ça. Donc, Toby le voilà parti au Moyen-Âge et il va falloir qu'il sauve une famille juive menacée par l'Église, persuadée qu'elle a tué sa petite fille qui venait de se convertir au christianisme. Bref, une histoire absolument
atroce,
abracadabrante. Néanmoins, il faut quand même reconnaître à Anne Rice qu'elle a étudié un petit peu la question, puisqu'elle fait la différence entre les franciscains et les dominicains, même si ça concerne surtout la manière dont ils se chaussent. Bref, tout ceci pour dire que L'Heure de l'Ange est un roman qui est longué, qui est assez mal écrit,
ou mal traduit,
effectivement ça peut arriver, mais très franchement, à la lecture on s'ennuie. Ça, c'est plein de détails inutiles qui alourdissent, de descriptions qui n'ont rien à faire au milieu, de digressions, ça se répète tout le temps.
C'est
à la limite du supportable. Et alors, les dialogues sont d'une platitude exaspérante, les personnages sont à... Alors, on hésite entre hurler de rire et hurler de désespoir.
Tu l'as fini, quand même.
Je l'ai fini, ouais. Bravo. J'ai quand même été au bout. Et c'est comme ça, du début à la fin. Effectivement, le seul moment où ça décolle un petit peu, c'est le passage du récit qui se situe au Moyen-Âge. Sauf que, pas de chance, il finit par être... Enfin bon, ça se termine, quoi. Il finit par remplir sa mission au Moyen-Âge. Et là, bah, je vais pas raconter la fin, parce que quand même, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de lire.
Ou pas.
Ou pas. Maintenant, je comprends très bien les gens qui ont aimé ce roman. Franchement, j'ai beaucoup lu Anne Rice à une époque, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, mais là, je ne comprends pas. Alors, il semble qu'elle se soit tournée vers la foi chrétienne, ce qui est tout à fait à son honneur et ce qui ne nous regarde absolument pas. Le problème, c'est qu'elle semble vouloir faire passer dans son roman un message de rédemption, de compassion, ce qui est très bien. Le problème, c'est qu'elle le fait d'une manière absolument...
Pénible
pour le lecteur, ennuyeuse au possible. Ça déborde de mysticisme qui semble assez mal digéré, de clichés qui semblent tirés de tous les best-sellers lamentables sur la question des anges gardiens. Donc très franchement, en ce qui me concerne, c'est largement évitable. Il vaut mieux relire Entretien avec un vampire,
et pour les vampires. Et pour les anges, et moi je comptais Supernatural.
Par exemple, ça m'a étonné aussi.
Avec les Darwin du Star.
Le seul problème, c'est que ça se lit pas. Que je regarde.
Ça se regarde. Et alors, c'est de la culture quand même.
C'est mais voilà. quel regard on peut poser sur cette scène.
Exactement, un regard profond.
Très profond.
Donc Supernatural plutôt que L'Heure de l'Ange d'Anne Rice. Si toutefois quelqu'un avait envie de le lire,
s'il connaît, se donne son exemplaire.
Oui.
Et c'est publié aussi, vous avez envie de l'acheter, on ne sait jamais, hein, il y a un moment de folie. C'est lui, c'est Michel Lafond.
Maintenant, Fashion dans la cour de récré va nous parler des Fragmentés de Neil Schusterman.
C'est un roman de jeunesse et de science-fiction qui connaît un joli succès, apparemment. Il a été publié il y a 2 ans, en 2008, enfin, il a été traduit il y a 2 ans, en 2008, et ce succès est parfaitement mérité. Je pitch rapidement. Donc ça se passe dans un futur indéterminé, dans lequel il y a eu une seconde guerre civile qui a opposé les pro-vie et les anti-vie. Donc c'est bien sûr, vous comprenez qu'ils se sont battus autour de l'avortement, enfin du droit à l'avortement. Donc cette guerre a conduit à l'édiction d'une loi qui est cruelle. Tous les parents ont le droit de fragmenter leurs enfants entre 13 et 18 ans. Qu'est-ce que la fragmentation? C'est affreux. Ça permet de découper un adolescent en autant de morceaux que nécessaire afin de les greffer dans des corps malades. Et c'est un processus totalement indolore et c'est permis par la loi parce que ce n'est pas une exécution puisque la conscience de l'adolescent demeure fragmentée dans chacun des morceaux qui composaient son corps.
Un petit peu effrayant quand même.
C'est effrayant. Absolument. Et ce qui est d'autant plus effrayant, c'est qu'il y a une société dans laquelle c'est permis et dans laquelle les parents le font. Et pourquoi les parents, certains certains parents le font, bah, pour se débarrasser d'adolescents à problème. Si leur fille ne se ramène pas d'assez bonnes notes, on le fragmente. Si leur fille ne veut pas écouter papa et maman et se met à fumer en cachette, on la fragmente, et ainsi de suite. Et on fragmente aussi, bien évidemment, très facilement les orphelins, qui se retrouvent donc pupilles de la nation. Et quand on ne sait pas quoi en faire parce qu'ils ne sont pas assez brillants dans un domaine, on les fragmente. C'est ce qui va arriver à deux adolescents, Connor, dont l'ordre de fragmentation a été signé par ses parents parce que c'est un adolescent un petit peu perturbé, on va dire, et Risa, qui elle est une pupille de la nation, qui est pianiste et qui n'est pas assez bonne pour devenir une virtuose, mais si on la fragmente et qu'on greffe ses mains à quelqu'un d'autre, qui est un petit peu plus brillant, peut-être que ses mains continueront à jouer excellemment bien dans sa fin de concert. C'est vraiment affreux. Comme Connor est un adolescent un petit peu perturbé et qui ne se laisse pas faire, il va s'enfuir. Et au cours de sa fuite, il va permettre à Risa, qui était aussi, elle aussi en chemin vers un centre de fragmentation, il va lui permettre de s'échapper et ils vont croiser un autre adolescent qui s'appelle Lev, et alors lui c'est un élu. Il fait partie d'une secte dans laquelle les 10e enfants de chaque famille sont élevés dans l'idée qu'ils seront fragmentés et que c'est pour Dieu. Nous avons d'un côté Connor et Risa qui sont en révolte et qui veulent gagner la clandestinité puisqu'ils pensent qu'il y a quelque part un centre, quelque chose en tout cas, avec des fragmentés qui ont survécu et qui n'ont pas été fragmentés. Et ce Lev qui lui n'a qu'une idée en tête, c'est se faire attraper par la police pour être fragmenté pour la gloire de Dieu. Donc, c'est une idée de départ qui j'ai trouvée similaire à celle du roman d'Ishiguro Auprès de moi toujours. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Vous vous rappelez, donc, c'était le jour des donneurs. Mmh. Voilà. Et dans sa page. Alors, je m'arrête là tout de suite parce qu'il ne faut pas spoiler. Donc, je m'arrête là. Et voilà. Après, avec Stéphanie. Donc, je ne spoil pas. Alors, l'idée est similaire, mais j'ai trouvé que ce roman jeunesse était, paradoxalement, alors que le roman d'Ishiguro, je l'avais trouvé glaçant, celui-là, il est encore pire, hein, si c'est possible, parce que tout est très explicite, très clair, et puis que cette idée de fragmentation est encore pire, finalement, que l'idée d'Ishiguro avec l'honneur. Moi, j'ai trouvé, puisque cette idée de conscience qui demeure, par exemple, la conscience demeure, on croise un personnage à qui on a greffé un bras, parce qu'il a eu un accident, et bien la main et le bras qu'on lui a greffé font des tours de prestidigitation dans son dos, j'allais dire sans mauvais jeu de mots, mais sans qu'il s'en rende compte, parce que la conscience du garçon à qui appartenait la main, c'était un garçon qui faisait lui-même qui pratiquait la magie. Donc, ce sont des choses quand même qui sont assez terrifiantes. Donc c'est un roman d'aventure et qui menait tambour battant. C'est un one shot, ce qui est quand même, je trouve, très appréciable dans, à l'époque où nous vivons à l'époque des sagas, des trilogies à rallonge, etc. Et c'est bien évidemment une réflexion sur l'identité, d'abord, puisque les morceaux des fragmentés gardent leur mémoire, et c'est aussi une réflexion sur la place de l'adolescent dans la société. Qu'est-ce qu'on fait des êtres qui ne sont pas comme les autres, en fait, et aussi une réflexion sur la liberté à disposer du corps d'autrui. Alors j'ai trouvé qu'il y avait quand même des passages qui étaient difficilement soutenables, sans être une chochotte, non pas dans ce qui est raconté, parce que c'est pas... Encore qu'on nous décrit une fragmentation, hein. C'est-à-dire qu'il y a un des personnages qui s'est fait fragmenter à la fin, je ne dirais pas lequel, et on nous décrit, alors c'est à savoir être un processus indolore, c'est proprement abominable, c'est assez difficile. J'ai trouvé que ce roman, l'intrigue est parfaitement construite, c'est excellemment écrit, donc on va penser que c'est très bien traduit aussi, ce qui est un plus. C'est un one-shot, et c'est-à-dire par les ados et par les adultes. À mon avis, à partir de 14 ans, peut-être pas avant, c'est Les Fragmentés de Nick Schusterman, publié aux éditions du Masque Jeunesse.
C'est disponible au prêt ?
Oui. Voilà.
Ouais.
Il est pour toi. Oh. Non, je crois que j'avais déjà dit Stéphanie.
D'accord, voilà. Alors, voilà, première. Non, après toi. Enfin, attends, j'en ai plein. Tu crois que j'en ai pas plein, moi ?
Comme tu veux.
Bon, on se battra après.
On se battra. Et toujours dans la cour de récré, Chiffonnette va nous présenter Le Temps des Miracles de
Anne-Laure Bandeau. Le Temps des Miracles, c'est un de mes coups de cœur qui date un petit peu. J'avoue, je n'ai jamais trouvé le temps, le moyen, aller savoir pourquoi et comment d'écrire mon billet là-dessus. Donc j'ai décidé finalement d'en parler.
C'est un peu marrant parce que moi, pareil, je l'ai lu il y a quelques mois et j'ai jamais trouvé le temps de faire un billet sur ce roman.
Alors que c'est un petit bijou.
Je suis d'accord. Moi. C'est un excellent roman.
Bon, Anne-Laure Bandeau, on la connaît. C'est quand même quelqu'un dont la plume est constante, qui est habitué à nous donner des plaisirs de lecture, Les Larmes de l'Assassin, qui est merveilleux, terrifiant et merveilleux en même temps, Pépite, enfin bref, la plupart du temps, quand on voit un roman d'Anne Normandou sortir, il n'y a qu'une chose à faire, c'est se précipiter. Et c'est ce qu'il faut faire pour Le Temps des Merveilles aussi. Le Temps des Miracles, pardon.
C'est un roman merveilleux.
C'est un roman merveilleux quand même. Miracle ou pas. Allons-y pour un petit résumé de l'intrigue, pour ceux qui n'auraient pas encore lu. Le Temps des Miracles, c'est l'histoire de Koumaïl et de Gloria. Gloria a sauvé Koumaïl d'un accident de train lorsqu'il était bébé, et depuis elle l'a élevé, avec l'idée fixe de le ramener à sa famille, car Koumaïl est l'enfant d'une Française morte dans l'accident du train, et qui portait le nom de famille de Fortune. Koumaïl est blaise, et Koumaïl doit regagner son pays, la France. À plus forte raison que la guerre a éclaté et que maintenant l'insécurité règne dans ce petit pays des Balkans. Gloria va donc se battre pour le ramener en France et Le Temps des Miracles raconte le chemin qu'ils vont parcourir pour gagner la frontière française. Bon là, c'est un résumé un petit peu plat parce que l'histoire est
pas trop en dévoiler.
Surtout que la chute amène un certain nombre
de choses. Même si on voit venir les choses,
Mais quand même, il ne faut pas trop en dire. Mais en tout cas, c'est une petite merveille. Parce que bon, on voit la guerre, des situations très difficiles, mais par les yeux d'un enfant. Donc d'un enfant qui se laisse parfois aller au découragement, mais qui a des petits moments d'émerveillement et qui découvre, grâce à l'amour que lui porte Gloria et la sécurité qu'elle lui apporte, beaucoup de choses. Alors il va découvrir l'amour maternel, l'amour que lui porte Gloria, le plaisir des histoires, Gloria, c'est un personnage merveilleux. Elle a des répliques absolument phénoménales. Dès que Koumaïl se laisse aller au désespoir, elle lui sort des phrases mais qui sont mémorables. Il y en a une que j'avais beaucoup aimée, c'est « On attrape le désespoir comme des poux ». Et elle a plein de petits aphorismes comme ça qui sont vraiment plein de tendresse, plein de vérité et qui résonnent longtemps en tête après la lecture. Ce que j'ai trouvé extraordinaire au-delà de ce personnage, c'est tout ce que ça peut raconter l'exil en fait.
Oui.
Parce qu'on voit souvent, surtout en ce moment, on parle beaucoup d'immigration clandestine, de ce genre de choses-là. Et on a beaucoup parlé aussi des mineurs qui arrivaient seuls en France. Et c'est le cas de ce jeune garçon qui a une petite douzaine d'années et qui va arriver tout seul, puisqu'on va trouver à la frontière française, alors qu'il dit « Je m'appelle Blaise Fortune, je suis citoyen de la République de France, c'est la pure vérité, c'est la seule chose qu'il sait dire ». Et donc on va voir un petit peu quel trajet l'a amené ici, quel genre de drame a pu le déraciner à ce point-là et l'amener jusqu'en France. Du coup, c'est quand même une réflexion qui est importante, à mon avis, sur l'exil. C'est une réflexion qui est importante sur ce que représente l'immigration et l'enracinement dans un pays différent. C'est aussi, de très belles pages sur l'amour maternel, sur les secrets de famille. Enfin bref, c'est un petit bijou, plein de tendresse, très drôle et en même temps extrêmement touchant. Je peux que le recommander.
Je recommande aussi.
C'est donc Le Temps des Miracles d'Anne Normandou, publié chez Bayard. Comme on le dit si bien, il n'aurait peut-être pas dû, par Fashion.
Oui, donc la rubrique cinéma. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'adaptation d'un roman de Roald Dahl qui s'intitule Fantastique Maître Renard et qui est au cinéma à l'affiche actuellement sous le même titre, donc Fantastic Mr. Fox. In English. Alors c'est un roman de Roald Dahl qui date de 1970, ce qui ne nous rajeunit pas, qui est publié chez Folio Cadet dans la catégorie première lecture. Donc effectivement c'est un roman extrêmement court, simple, facile à lire, illustré par Quentin Blake.
Ça ne gâche rien,
ça n'a un peu rien à voir avec l'histoire, mais c'est quand même très agréable.
Et puis il est absolument charmant, Quentin.
Tu l'as rencontré ?
Oui.
Ouh, la vénarde. Donc voilà, alors je pitche rapidement.
Quoi ? Il a illustré quasiment
tous les romans de Roald Dahl. Quasiment. Ouais. Alors, donc je pitche rapidement. Donc, Fantastic Maître Renard, c'est l'histoire d'un renard rusé. Bon, c'est un pléonasme, j'assume. qui va se jouer de trois fermiers affreux, sales et méchants, Bogis, Buns et Bean. Alors ces trois épouvantails vont s'allier contre le renard qui les vole avec régularité pour faire vivre sa famille. Donc les trois fermiers vont l'assiéger et ils pensent l'affamer, alors qu'en fait Mr. Fox organise la résistance souterraine avec tous les autres animaux et continue de faire exactement ce qu'il faisait, c'est-à-dire les voler avec régularité, mais caché, après avoir fondé une société souterraine avec donc tous les blaireaux, etc., les écureuils et lapins. Donc c'est un roman très court, qui fait 100 pages, mais illustré, écrit gros, etc. Et en l'adaptant pour l'écran, Wes Anderson a beaucoup, beaucoup développé les personnages et l'intrigue, et il a réussi l'exploit d'en faire quelque chose d'à la fois très fidèle, puisque tout ce qui est dans le roman pratiquement se retrouve dans le film, est totalement différent. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu Monsieur Renard, Maître Renard, beaucoup plus humain. C'est-à-dire que là où Dahl met en scène un renard qui agit comme tel, et avec une femme qui est une femme renarde, donc ils agissent comme des renards, c'est-à-dire à l'instinct, ils volent, voilà. Anderson, lui, a créé un personnage très complexe. C'est-à-dire que le seul trait de caractère de Maître Renard dans le roman, c'est le fait qu'il vole. Alors que chez Anderson, pas du tout. Donc chez Anderson, le renard, il est sûr de lui, il est hableur, il est beau parleur, et il accepte au début du film de renoncer à une vie de rapine pour sa femme, qui en fait ne supporte plus la peur perpétuelle qui plane sur elle, puisqu'évidemment elle a peur que son mari se retrouve au bout d'un fusil, et qu'il ne rentre pas à la maison. Donc il accepte, parce qu'elle lui annonce en même temps qu'elle est enceinte, et qu'ils vont avoir un petit renardeau, et il accepte d'arrêter cette vie dangereuse. Il devient journaliste, il rêve de promotion sociale, il achète un beau terrier, et il ne peut pas résister à l'envie de replonger dans le crime en volant les trois affreux fermiers. Et dans le film, ce qui est très intéressant, c'est que Mr. Fox donc, est sans cesse partagé entre la part humaine que sa femme a exacerbée et sa part animale, son instinct. D'ailleurs, il dit tout le temps « nous, on est des animaux sauvages » et « moi, je suis un animal sauvage ». Donc en fait, il y a cette idée de différence entre d'un côté la civilisation et de l'autre côté la sauvagerie. Mais en même temps, la civilisation, si c'est être un être humain, c'est pas tout à fait être civilisé, parce que les trois fermiers sont affreux, 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 très fidèles au roman et en même temps, c'est encore pire parce que là, on les voit se développer. Donc, Anderson propose finalement, en s'éloignant considérablement, j'ai trouvé, du matériau de départ, un excellent dessin animé, avec un scénario parfaitement construit et surtout un ton qui est très particulier. C'est-à-dire que le roman de Roald Dahl est uniquement drôle, c'est-à-dire que c'est l'animal qui va tromper les êtres humains. Alors que le dessin animé, c'est pas ça finalement, c'est autre chose, parce que le ton qu'il a choisi d'adopter est doux, amer et très poétique. Donc il y a des passages, il y a un passage avec un loup qui est sublime. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, on se retrouve à osciller le spectateur entre le rire, parce qu'il y a des passages franchement drôlatiques, et parfois les larmes aussi, parce qu'il y a des personnages comme ça. Je pense à son fils notamment, parce que donc dans le roman, ils ont quatre renardos qui en fait ne servent à rien, quoi. Ils sont là comme ça. Alors que dans le film, ils n'ont qu'un enfant, H, et qui est un enfant qui se sent mal aimé parce qu'il se sent différent. Donc il y a toute une réflexion sur la différence, etc. Et Anderson a introduit un personnage qui n'existe pas du tout dans le roman, qui s'appelle Christopherson, et qui est le cousin. Et en fait, c'est le cousin parfait du petit H, et qui est tout ce que l'enfant n'est pas, en fait. Et donc, H a peur que ses parents, surtout son père, parce qu'il veut éblouir son père, qui est formidable, se mettent à aimer plus ce cousin, etc. Donc, vraiment, il y a quelque chose de formidablement bien fait au niveau du scénario. Et donc, on suit avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, j'ai trouvé, les aventures de ces animaux, donc qui vont résister à l'envahisseur humain comme ils peuvent, même si au fond, et ça c'est la grande différence aussi j'ai trouvé entre les deux romans, entre le roman et l'adaptation, au fond dans l'adaptation ils sont pas vraiment gagnants. Enfin moi c'est comme ça que j'interprète la fin, quoi. C'est-à-dire que bon, ils vont survivre, mais dans des conditions qui sont pas forcément idéales pour des animaux. Donc c'est vraiment, j'ai trouvé ça formidable, et alors j'ai adoré l'animation. Donc je ne suis pas du tout une spécialiste, encore une fois, mais l'animation est à la fois très cartoonesque, c'est-à-dire quand les personnages se déplacent très vite, on a l'impression de voir des petites figurines qui se baladent sur leurs pattes, et en même temps les gros plans sont géniaux parce qu'on voit vraiment le poil des personnages, mais ça ne fait, alors je ne sais pas du tout comment ils ont fait ça, mais ça ne fait pas image de synthèse comme d'habitude en fait, ça fait différent. Et ça participe, je trouve, à la réussite de ce dessin animé. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. S'il ne joue plus, parce que je ne suis pas bien sûre qu'il reste longtemps à l'affiche, procurez-vous le DVD, parce qu'en plus, en VO, cerise sur le gâteau, c'est George Clooney, donc, qui double le fantastique Maître Renard.
Je connais au moins une qui va acheter le DVD.
Oui. Toi, peut-être, et moi aussi.
Et une autre.
Et une autre.
J'ai envie, certains objets, un peu dans du café.
Ah, tu veux parler d'Amanda?
Par exemple.
Coucou Amanda. Et en plus, donc George double Monsieur Renard et Meryl Streep double sa femme. C'est pas mal.
C'est du bonheur.
C'est que du bonheur. Donc vraiment, vraiment, c'est un dessin animé à voir et à revoir.
Et à re-revoir.
Et à re-revoir.
Quelques bulles, mais pas des bulles de champagne. On va parler bande dessinée avec Stéphanie.
Et oui, parce que après une période frénétique où j'ai découvert la manga, les mangas, et une...
il y a longtemps, ça.
Oui, c'était il y a longtemps. Et d'ailleurs, après une pause manga tout aussi longue que ma période frénétique, j'ai décidé de me remettre aux images, mais cette fois par la voie traditionnelle des BD. Bon, alors je dois avouer que la découverte d'un super magasin de BD avec des super libraires, donc des vrais qui donnent des conseils, et pour beaucoup dans cette décision là. Alors ce lieu de perdition est à Saint-Germain-en-Laye. Mon Dieu, il faut passer le périphérique. Mais c'est la librairie Labyrinthe et c'est juste à côté du RER et juste à côté du parking.
Ah, ça va.
Donc, donc tout va bien.
Ça pourrait se faire.
Et il faut dire que je les considère un peu, les pauvres, comme mon guide personnel, la découverte de la BD pour les nuls. Où j'y vais, je leur dis bonjour, aujourd'hui j'aimerais lire voilà tel style, et qu'est-ce que vous me conseillez?
J'ai demandé une BD avec un sexy man?
Non, je ne l'ai pas encore osé, j'attends d'être un peu plus proche de mes libraires.
Et non, je t'ai conseillé le scorpion.
Je vais noter ça. Donc, en attendant, la dernière fois, je leur ai demandé un roman historique, une BD historique. Ils ont commencé par me conseiller une BD de la Seconde Guerre mondiale, mais je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est après l'avalanche de romans de l'année dernière sur le sujet, cette année, c'est les films, je suis à saturation, et donc, en fait, je leur dis non, je préférerais des chevaliers qui se battent.
Ah, des épées rouillées
Non, des épées luisantes. Et donc, ils m'ont conseillé Le Trône d'Argile, avec le tome 1, Le Chevalier à l'Hache, le scénario écrit par Nicolas Jarry et France Richemont, les dessins de Théo et la couleur de Lorenzo Pieri. Donc le pitch, c'est l'histoire qui débute en 1418 en France, où les armées bourguignonnes sont en train d'assiéger Paris, pendant que le roi Charles VI sombre lentement dans la folie. Et on suit les aventures de Messire de Tanguy du Châtel, qui dès les premières pages en fait aide le dauphin à fuir devant l'envahisseur en le forçant à quitter Paris.
C'est un héros donc.
C'est un héros, c'est un homme mais un
très violent.
Voilà, dans le plus beau sens du terme, avec de vraies valeurs.
Il est tatoué.
C'est pas marqué. Mais écoutez, on pourrait peut-être essayer de se renseigner. Et c'est inutile de vous dire que moi qui suis fan de tout ce qui est histoire historique, je suis un peu
dire histoire historique,
on va dire. J'étais comblée. L'histoire de Tanguy est vraiment bien intégrée dans le contexte, dans la grande histoire. Bon, alors mon niveau en histoire ne me permet pas de traquer toutes les erreurs, mais en tout cas j'ai vraiment l'impression que l'atmosphère de l'époque est bien retranscrite. Bon, c'est côté noble. Côté dessin, parce que c'est quand même important pour les BD, c'est clair, c'est fluide, donc c'est pas gênant pour la lecture. Il faut pas passer un temps inconsidérable sur chaque bulle pour ne rien louper. Donc il y a vraiment une lecture qui est agréable. Et j'ai particulièrement apprécié les scènes de nuit et les paysages de coucher et lever de soleil. Bon, ça fait un peu cliché.
C'est
une
un chevalier en armure, vous
êtes d'un côté, je participe au soif sexy man. Donc,
c'est
mon côté midinette. Donc, les vues sur Paris sont vraiment très belles et ça fonctionne bien, c'est joli.
Voilà, donc pour résumer, il y a de belles images, il y a une chouette histoire. Le tome 4 vient de sortir, et d'ailleurs, si vous avez la possibilité d'acheter un tome 1 gratuitement, si vous achetez le tome 4, il y a un coffret en ce moment. Donc si ça vous plaît, en tout cas, vu qu'il y a 4 tomes, vous en avez quelques-uns à découvrir d'une presse. Donc qu'est-ce que vous attendez?
Mais toi, tu es de l'éditeur.
Ah, voilà. Donc c'était Le Trône d'Argile, avec le tome 1, Le Chevalier à la Hache, chez Delcourt.
Merci. Fashion, alors apparemment tu avais aussi des bulles à nous faire découvrir.
Oui, un tout petit peu, une petite bulle. Allons-y pour la bullette. C'était juste pour dire que le 28 mai sort le tome 3 de Long John Silver. Et voilà, ce bon vieux Long John. Alors, donc tout le monde a lu le trésor. Même si t'es pas mis.
Non, ouais. Mais c'est pour ça que j'ai un libraire pour les nuls, en fait. Il y a une raison.
Bon, alors, très rapidement, Long John Silver, c'est la figure du pirate dans l'île au trésor. Il a une jambe de bois, il est cruel, il est terrifiant, il est inquiétant, mais en même temps, c'est un personnage fascinant. Enfin, moi, en tout cas, il me fascine. Et donc, à la fin de l'île au trésor, il disparaît. Et on sait pourquoi il a disparu. En fait, il est parti vaquer à d'autres occupations.
Donc, c'est une bonne raison.
C'est une bonne raison. Alors, donc, blague à part, en fait, donc Xavier Dorisson et Mathieu Laffray se sont repris le personnage 20 ans après. Et ils ont fait une bande dessinée qui est très intéressante, qui comporte pour l'instant 2 tomes. Le premier s'appelle Lady Vivian Hastings, le deuxième Neptune. Et donc l'idée, en fait, c'est qu'il va reprendre du service, notre ami Long John, pour les beaux yeux de Lady Hastings, qui l'engage, en fait, pour aller chercher son mari et accessoirement un trésor en Amazonie. Et j'aime beaucoup. Le dessin est assez tourmenté, c'est assez rude. Comme la mer, comme les marins, comme Long John, qui est comme un personnage qui est fascinant, mais qui est tout sauf sympathique normalement, mais bon, moi je l'aime quand même, parce que je suis un petit peu bizarre. Et il y a d'autres personnages, donc, qui sont... Lady Hastings, pareil, c'est une femme extrêmement... pas aimable, hein, on va dire, qui n'a que des défauts, qui trompe son mari, etc. Mais en même temps, elle est tellement déterminée, moi j'aime. C'est-à-dire qu'une femme qui est une vraie, comme Scarlett O'Hara, mais qui en même temps, on va pas dire des gros mots, mais qui en même temps est déterminée, a du caractère, quand même, ça force admiration. Donc c'est une bande dessinée de pirates, de trésors, maritimes, avec des aventures, du sang, de la tripaille. J'aime beaucoup.
Tout le monde avait cru comprendre.
Et le tome 3 donc sort le 28 mai et il s'appelle Le Labyrinthe d'Émeraude.
On va l'attendre avec impatience et découvrir les premiers tomes avant.
Voilà.
Et comme vous le savez tous maintenant, le crime est notre affaire, et pour ce fait aujourd'hui, c'est Stéphanie qui s'y colle.
Oui, alors il faut dire que j'ai eu ma période polaire en ce moment, et qu'en plus j'ai eu ma période polaire français. Donc après avoir lu La Balade de l'Escargot, ce soir je vais vous parler justement de Ce soir je vais tuer l'assassin de mon fils, de Jacques.
Tout un programme. Hein.
Tout un programme, de Jacques Expert. Alors pour vous situer, ça peut arriver à tout le monde. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été très sensibilisée par les campagnes sur les accidents de la route. Et là, dans ce roman-là, le héros fatigué qui rentre du travail, il fait presque nuit, en fait l'heure qu'on appelle entre chien et loup, donc est vraiment la pire au niveau conduite. Et subitement, il ressent un choc sur cette grosse voiture. Il pense que c'est un animal. Il s'arrête pour constater les dégâts, des gens en train de râler. Et là, il découvre qu'en fait, il a touché un enfant en vélo qui est maintenant inconscient sur le bas de côté. Donc, il regarde autour, personne à l'horizon. Et c'est là que, en fait, si on peut dire, tout bascule.
Dès les suites.
Oui, c'est exactement ça. En fait, l'auteur s'amuse vraiment avec le tabou suprême, si on peut dire, puisque le roman va raconter l'histoire de l'assassin d'un enfant. Donc c'est vraiment le pire. Et surtout que, en fait, dans ce roman, Jean-Pierre, il n'hésite pas, ou presque, en fait. Il est plus... il commence dès le départ à se dire, mais qu'est-ce qu'il faisait là, cet enfant? Pourquoi ses parents l'ont laissé sortir? Encore heureux qu'il n'ait pas abîmé ma belle voiture. Il regarde, oh, il y a juste un feu abîmé, un peu de peinture, mais c'est pas grave. De toute façon, le gamin va... c'est affreux. Le gamin va bien se réveiller, quelqu'un d'autre va passer, s'en occupera. J'ai un peu bu, franchement, ça serait vraiment dommage que moi je dois payer et que je dois payer pour l'inconscience de ses parents, qu'il les sortir à pas d'heure. Il y a vraiment des gens, je vous jure, mais c'est vraiment ça vous
glace. Un salaud, quoi.
Voilà, c'est le pire qu'on puisse faire. En plus, alors le personnage évidemment est désagréable possible. Il est drapé en sa petitesse, qui pense être de la dignité. Il est vraiment dans un état d'esprit en train de se dire, moi, je peux pas m'embêter avec ça, ce gamin là, je le laisse comme ça. Il y a bien quelqu'un d'autre qui va passer. Et donc en fait il choisit et retourne à sa vie qu'on découvre misérable, de cadre moyen avec femme, pavillon, deux enfants, il manque juste le chien pour faire vraiment le stéréotype. C'est d'un côté la belle image et de l'autre en fait dès qu'on commence à gratter, c'est vraiment l'horreur. Parce qu'on se rend compte, alors il s'agit d'un roman à quatre voix, donc il y a Jean-Pierre l'assassin, j'ai un peu du mal même à l'appeler par son prénom, il y a sa femme Christine, et de l'autre côté en fait il y a Antonio et Sylvia qui sont les parents de la petite victime. Et plus on plonge dans le roman, plus on se rend compte qu'en fait la vie de Jean-Pierre est vraiment dans les non-dits, dans le paraître, et que sa femme le déteste autant que lui semble détester sa femme.
C'est charmant, hein,
comme... C'est charmant. Alors, en plus, on a la voix. Voilà. Histoire de rajouter, je vais vous lire un extrait qui fait partie des parties, qui fait partie en fait de quand Jean-Pierre raconte. Alors, je n'ai pas entendu Christine descendre sur le coup de 23h. J'ai allumé la radio pour savoir s'il parlait de l'accident, mais comme je m'en doutais, il n'y a pas eu un mot. Je vais pouvoir dormir peinard. Franchement, ça m'aurait gavé de savoir que l'accident avait déjà été découvert. Ça m'aurait pris la tête, et quand ça m'arrive, j'ai du mal à trouver le sommeil. Ça donne toute l'ampleur du personnage. Si vous aimez les méchants comme moi, ben là, vous allez le détester. Donc on retourne au schéma où on déteste le méchant. Antonio, en fait, il y a une vraie différence de style entre quand Jean-Pierre, quand sa femme parle, ou quand c'est Antonio et sa femme qui parle. Il y a une vraie dignité d'un côté, il y a un vrai... je dirais pas témoignage parce que c'est un roman, mais il y a une vraie un vrai travail sur le deuil qui est montré par ce couple, alors que de l'autre côté c'est une chronique de la violence ordinaire qui est la pire qu'on puisse trouver, puisque comme je disais, l'auteur s'attaque au tabou intégral du fait de tuer un enfant. Alors vous me direz, bah, ça donne un livre totalement glauque, j'ai pas envie de le lire. Bah, c'est un peu l'idée que je m'en faisais, et paradoxalement, en fait, ça, je l'ai complètement dévoré.
Parce que je suis une aventurière.
Voilà, parce que je suis une aventurière. Pourtant, d'habitude, j'aime pas vraiment tout ce qui est violence aux enfants et tout. Mais là, c'en est fascinant. C'est le fait de regarder cet assassin et de dire mais c'est pas possible, alors qu'en fait il y a certainement des gens qui sont aussi inconscients avec un volant entre les mains et qui vont vraiment pas se rendre compte de ce qu'ils ont fait. Et donc cette chronique de la violence ordinaire vous glace, mais vous dévore en même temps. Donc je vous le conseille.
Non, c'est un thriller, alors c'est pas un roman policier.
Ah ouais, c'est un thriller. Donc ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils, de Jacques Expert, aux éditions Anne Carrière.
Et pour finir, un peu de cuisine avec Chiffonnette, ça ne surprendra personne, puisqu'elle fait les meilleurs muffins aux fraises tagada du monde et de ses environs.
Et qu'en plus, elle a lancé un challenge. Ouais. Vrai. Tu veux des muffins à la fraise tagada, toi, peut-être?
Oui, s'il te plaît.
Bon, à la prochaine fois.
Donc, Chiffonnette va nous parler alors d'un livre qui porte un nom que je trouve tout à fait alléchant, Les recettes inavouables et les nouvelles recettes inavouables chez Hachette.
Oui, c'est un de mes coups de cœur livres de cuisine de l'année dernière. Alors, c'est des...
De l'année dernière, ça parle maintenant.
De l'année... Mais oui, mais c'est un petit peu compliqué, parce que j'ai une vie très compliquée, enfin, une vie électrique très compliquée, tu le sais bien.
Et
un de ces quatre, c'est promis juré. Donc, les recettes inavouables, c'est pas récent, c'est même pas récent du tout, mais je tournais autour, doucement, librairie, je tournais, je virais, je retournais, je revirais, je
virais
encore. et j'ai fini par craquer, mais pas pour moi, je l'ai offert.
Ça compte pas donc.
C'est une dramatique erreur, parce que du coup j'ai pu les feuilleter tout à loisir avant de les acheter pour la bibliothèque. Oui, oups, j'ai révélé quelques petits pans de ma vie, mais bon, c'est pas grave, c'est pas vraiment un secret. Et donc, j'ai pu encore plus les feuilleter à loisir. Alors, les recettes inavouables suivies de les nouvelles recettes inavouables. On a tous des recettes inavouables, en fait.
Genre les muffins de Tagada.
Mais oui, ça rentre dans les recettes inavouables.
C'est tout ce qui est au carambar et tout, c'est ça, non?
Non, même pas. C'est tout ce que tu fais avec... qui a vraiment de la gueule, qui en jette sur la table, alors qu'en fait...
Tu as ouvert le panier de brossard.
Voilà, j'ai pas fait le brossard, la boîte de thon, et que papa là, oh là là, regardez comme c'est joli et que c'est bon. Et donc, Simourina Krul et Steven Moi n'ont pas hésité deux secondes, eux, leurs recettes inavouables, les partagent. Et ils les partagent avec une drôlerie, parce que c'est beau, c'est des très beaux objets, les couvertures, alors le premier tome c'est dans des tons de rouge, et le deuxième dans des tons de bleu, ce sont ces imprimés chinois, très harmonieux, très jolis, les photos sont magnifiques, elle est styliste culinaire, il me semble, je ne suis pas certaine.
Styliste culinaire.
Elle prend les photos
pour les nouvelles professions, c'est intéressant. Hein.
Et donc du coup, c'est un magnifique objet, les photos sont absolument superbes, et en plus, la manière dont il parle des recettes, des ingrédients, la manière de les faire, même les noms qu'il donne à les recettes sont absolument hilarants.
C'est facile du coup.
C'est des recettes extrêmement facile, c'est vraiment rien du tout à faire, c'est le thon moré, les choses comme ça. Alors au fil des pages, on découvre des choses comme la banoffee pie, la purée qui rit.
C'est un gâteau anglais, le banoffee pie.
Ouais. Ah, d'accord, la tarte à la banane. Le crumble de sardine, la ratata de Boubaker, le fabuleux dessin du poisson pané. Qui ne s'est jamais interrogé sur le fabuleux dessin du poisson pané? Franchement,
je pensais qu'il avait pas de
chance, le poisson pané, évidemment. Donc tout est à l'avenant, c'est-à-dire que les recettes se succèdent avec vraiment un humour débordant. Enfin, moi j'ai vraiment trouvé ça très agréable à feuilleter et à faire en plus, parce que c'est vraiment...
Tu as fait des recettes alors?
J'en ai testé une ou deux, c'est de toute façon on en a tous testé forcément une ou deux, puisque ce sont des choses qui finalement... Quelques-unes des recettes sont des basiques qu'on cuisine, même sans le savoir, presque. Et puis, donc c'est vraiment hyper agréable, non seulement à lire, mais en plus à regarder, à refeuilleter, à voir dans sa cuisine, pour réaliser ces recettes-là, pour le plaisir de faire ses fonds de placard et de réussir à faire des recettes qui en jettent vraiment. Donc c'est vraiment très inventif. C'est une mine de bonnes idées pour recevoir ou pour la cuisine quotidienne. C'est plus que conseillé. C'est en plus de très beaux objets à avoir chez soi.
C'est cher.
Alors pour Noël, ils avaient sorti le coffret à 20€ les deux tomes. Sinon, maintenant qu'il n'y a plus de coffret de Noël, c'est 20€ le tome. Ce qui n'est pas non plus excessif
pour
des grands formats. Donc ce sont les recettes inavouables suivies des nouvelles recettes inavouables par Simourina Krul et Steven Noir chez Hachette.
Et voilà, c'est fini.
Vous pouvez éteindre votre ordinateur
et vous remettre à lire.